Merci donc aux trois intervenants. Donc je vais commencer par poser une petite question à chacun d'entre eux et il viendra aussi en prendre la relève. Donc je vais commencer par Elisabeth et notamment par la citation d'Étourdi qui reprend les trois couples discursifs, hein, le discours du maître, maître et esclave, le discours universitaire pédant et pédé, et le discours hystérique scient et scier. Donc, j'avoue que moi j'étais un peu sciée la première fois que j'ai lu ça. Je me posais un petit peu la question de ce que Lacan entendait par là. Et je me demandais s'il voulait par là souligner, avec une certaine note d'humour et un petit peu de moquerie, hein, comme le soulignait Bernard, la dimension active-passif qu'il y a dans ces trois couples discursifs. Il parlait de racisme en action. En effet, donc il y en a un qui est en position d'agent et l'autre qui est censé travailler pour sa jouissance, en ayant une jouissance différente à part. Voilà, c'était un peu la question. Oui, d'ailleurs, dans Oupire, il dit qu'on ne sait pas quel corps jouit finalement. Voilà, si tu pouvais éclairer un petit peu là-dessus, parce que bon. Et puis aussi, alors, bon, tu as en partie un peu répondu, puisque tu as rajouté quelque chose qu'il n'y avait pas dans ton texte, mais je me posais la question quand tu nous dis que pour rentrer dans le discours analytique, eh ben, il faut changer de discours, et donc que ça produit un franchissement sur la façon de concevoir la castration de la traiter. Et que donc ça rendrait le sujet plus averti quant à ce qui se passe dans les autres discours. Et du coup, ma question qui avait l'air de se profiler, c'était: est-ce qu'une analyse rend un sujet moins raciste? Voilà, c'est une question. Ce qui avait l'air de se profiler un peu dans ton texte avant. Voilà, pour Bernard Lavinali, vous disiez que donc pour qu'une école analytique soit cohérente avec son objet, il faut trouver une commune mesure que vous situez dans le choix d'exclusion. Dans le choix d'exclusion donc, qui est à l'origine de la création de l'école en 1964 et qui est aussi à la fin de la cure. Pour faire la partition entre le collectif et l'analyse personnelle. Et alors, moi, je me posais la question, bon, vous y avez en partie répondu parce que vous avez rajouté beaucoup de choses après, mais voilà, est-ce que ce choix d'exclusion ne vaut-il pas que pour ceux qui l'ont fait en 64, et pourquoi pas ceux qui l'ont fait en 98 avec le PFCL? Mais où finalement la tendance de l'institution est quand même de retomber dans le fonctionnement du discours du maître, avec ces deux races dont parlait l'autre Bernard, les suffisances et les petits souliers. Voilà, et donc est-ce que le discours du maître fasse marcher l'école ou pas, c'est la passe notamment, dans le fait de se laisser enseigner par l'AE qui fait lui l'expérience de ce réel qu'il a pu saisir dans la cure, mais bon, vous l'avez développé davantage là dans ce que vous avez, et peut-être que vous pourriez l'articuler plus comment l'AE à ce moment-là, comment il vient. Parce que vous ne l'avez pas repris autour du choix d'exclusion, ou je n'ai pas bien suivi comment vous l'avez repris. Peut-être que vous pourriez l'expliquer davantage. Et donc, pour Bernard Nominé, vous parliez de la différence entre le discours du maître et le totalitarisme. Vous disiez que ça avait même structure, sauf que le système totalitaire dénie la fuite du tonneau. Et je me demandais si la différence ne résidait pas aussi dans le fait que dans le discours du maître, finalement, le maître s'en fout de la jouissance de l'esclave, ça n'intéresse pas, il veut rien en savoir pourvu que l'esclave serve sa jouissance à lui. et que dans le totalitarisme, au contraire, le système la veut régler toute la jouissance. Toute la jouissance pour la ramener à une seule jouissance, une seule et même jouissance, et veut régler la jouissance pour tous aussi. Donc tous au pas de la même jouissance. Et que pour ce faire, il s'appuie sur justement la construction d'un autre qui, à ce moment-là, est construit comme un autre radical à expulser, à éradiquer. Donc, voilà.
Vous voulez répondre peut-être déjà ?
Oui, parce que. Ouais. Alors, ces passages, je l'ai tout dit, la première fois que je l'ai dit, je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qui s'est perdu là, de pédant, pédé, scientier ? Et j'avais. C'était un peu comme l'émission de télé Qui veut gagner un million. On élimine les discours du maître, il les nomme plus facilement. Et après, les deux autres alternatives. Et je me suis appuyée d'abord dans une lecture de ces livres de Christian Firenze, qui les distribue comme je viens de les dire. Ça m'a paru évident, mais après j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'a paru évident. En fait, je pense qu'il faut comprendre que pédant, c'était un nom qui, dans les 16e siècle, désignait les maîtres d'école, d'abord. C'était tout bêtement, les maîtres d'école, c'était un pédant. Hein? Avant, l'essence a évolué, mais c'était très bonnement les maîtres d'école, et après, celui qui étale ses savoirs. Hein, donc c'est l'idée de et pédé, ça vient à la fois de l'enfant, ça vient du grec, hein, ça vient de on a de les pédérastes, mais dans le sens de celui qui est aimé, c'est un rapport avec l'enfance, il y a aussi un rapport, c'est les mêmes radicales pour l'éducation, hein, donc je pense que ça collait au discours universitaire. On peut en discuter, mais ça collait plutôt du discours universitaire. Science, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vois plutôt science, celui qui sait, qui est. Hein, c'est le même radical des sciences, et Lacan a toujours parfois apparenté la science avec les discours historiques aussi, hein, avec Socrate. Donc, c'est dans ces sens que. J'ai accepté cette proposition de cette lecture qu'avait fait Firenze. Et bien sûr, c'est-à-dire un discours, il lit deux sujets. Donc il y a d'un côté un agent et de l'autre côté patient, celui qui pâtit de l'agent de discours en quelque sorte. Donc ça fait en effet un couple. Ça lit deux sujets. Oui, dans ce rapport que tu viens de décrire. Et. Est-ce qu'une analyse rend quelqu'un pas raciste? Je pense que rien n'est moins sûr. Je ne saurais pas expliquer, mais ce n'est pas du tout la même nature de ce que nous traitons aujourd'hui, du racisme des discours. Hein, ça s'enracine dans d'autres choses, et je ne suis pas sûr que ce soit une analyse. Peut-être pour certains, oui, mais il faut voir, je pense, au cas par cas. Où est-ce que le racisme de quelqu'un peut s'enraciner? Je ne sais pas sûr.
Oui, bon, donc ça m'oblige un peu à redire un peu. Alors, dans cette citation de la proposition 67, on voit bien que Lacan remet quelque chose qui est central pour l'analyse, c'est cette question de l'être exclu. L'être exclu de quelque discours que ce soit. C'est une autre façon que Bernard Mandelet le présente avec l'être qui fuit, hein, cette histoire de la fuite. Voilà, Lacan remet ça au centre pour l'école de psychanalyse. Alors, c'est vrai que c'est pas un choix d'exclusion, c'est le choix d'être exclu. Hein, c'est-à-dire, ça vaut au moment des gens qui vont se séparer de l'IPA, c'est quand même un choix de séparation radicale, c'est pour ça que je disais un quasi-suicide professionnel. Alors c'est vrai, j'avais tout à fait remarqué, mais je ne voulais pas faire trop long, que ça n'a valu que pour, en 64, ceux qui ont, parce qu'en 67, on peut venir s'inscrire à l'école de Lacan, etc., il n'y a plus besoin de de se faire exclure. Hein, je crois que c'est aussi pour ça que Lacan, en 67, reprend sa proposition de la Convention 64 en y ajoutant l'AE. Il noue, en effet, ce qui est essentiel d'être exclu à la fondation d'une école, mais il faut y insérer la question de l'analyse et de la fin de l'analyse. Et là, il met aussi du côté de l'analysant qui viendra l'analyser. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être dire autrement, mais ça n'a peut-être pas que l'inconvénient que tu présentes, parce qu'il faut bien dire quelque chose, quoi. Alors, voilà, il faudrait. On va en reparler, mais dire quelque chose. Il dit Lacan, il le dit implicitement, il faut insérer cet acte de l'école dans l'AE, dans le cas, ce qui est le cas de l'école. Donc, il veut dire, il m'a semblé, moi ça m'a semblé logique, qu'il voulait remettre cet acte d'être exclu aussi au centre de ce qui fait la fin de la cure. C'est s'exclure du discours analytique et c'est s'exclure de tout discours. C'est une séparation radicale. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il en fait la mesure commune et qu'il arrive à nouer comme ça le groupe des analystes est ce qui fait le fondement de la révélation pour chacun de l'inconscient. Donc, ça répond à...
Je peux mêler. Mais, non, oui, ça m'interpellait aussi cette façon de dire d'être exclu, parce que à la fin d'une cure, il y a les possibles. C'est peut-être ça, c'est comme ça que j'avais entendu d'ailleurs quand Lacan dit si le discours de l'analyste ferme de sa boucle le réel, c'est-à-dire c'est que à la fin l'analyse il peut pas forcément être exclu, mais il peut renouveler en prenant la place d'analyste ou d'autres.
Ce qui est une place de principe d'exclusion, parce que le destin de l'analyste, c'est quand même d'être exclu du lien aussi. Alors après, ça passe au
être rébu. Voilà.
Enfin, il m'a semblé que cette. Enfin,
il
le dit, c'est ça qu'il faut mettre au principe des deux. À ce moment-là, il le dit. Alors, il dira d'autres choses, d'accord. Mais ça m'a semblé quelque chose de très intéressant pour la construction qu'il fait de son école, où il arrive à nouer la question du groupe des analystes impossibles, ce qu'il dit, c'est un grand mousse, avec la question de l'analyse personnelle.
Moi, je voudrais aussi intervenir là. C'est fort les mots que tu utilises, le choix d'être exclu.
D'accord.
Oui, mais je trouve que c'est fort. Quand on lit l'histoire de ce moment-là, moi j'ai l'impression que Lacan n'a pas fait le choix d'être exclu, il a pris le risque de se faire exclure, mais il s'est fait exclure et il en a souffert. C'était pas un choix qu'il a mis en avant comme ça. Et il me semble que je serais plus modéré et je préférerais parler du risque de se faire exclure que plutôt le choix de l'exclusion. C'est sûr que le psychanalyste, pour être opérationnel à sa place, doit prendre le risque de se faire exclure des autres discours. C'est sûr que s'il veut trop séduire le discours universitaire ou le discours du maître, il ne sera pas opérationnel.
Mais est-ce que... Excuse-moi, mais Bernard parlait des analystes qui ont suivi Lacan.
Oui,
qui auraient pu rester à l'IPS.
Ah oui.
La phrase est précise. Hein, l'école de son rassemblement inaugural ne peut omettre qu'il s'est constitué d'un choix pour ses membres délibéré, celui d'être exclu.
Oui,
c'est ça qu'il veut insérer dans ce qui est le cas pour l'école.
Mais ceux-là, ils suivent Lacan.
On l'a vécu
autrement, mais c'est sûr qu'on n'est pas sorti tout seul comme ça, tout nu dans la rue, on est sorti un peu vieux.
Disons que c'est le point fort qu'il saisit pour dire quelque chose à ce moment-là.
Et même Lacan, en persévérant dans ses choix, a fait le choix d'être exclu à un moment donné, puisqu'il y a eu le groupe de contact qui lui donnait le marché. Hein.
Bon, par rapport à ce que vous avez repéré, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le totalitarisme vise à anéantir ce qui ne rentre pas dans l'ensemble. Parce que ce qui ne rentre pas dans l'ensemble détruit le mythe de cet ensemble qui ne serait pas, troué. Alors bien sûr, c'est tout à fait ça.
Concernant l'exclusion, je trouvais très important que Bernard Lapinali centre là-dessus. C'est un terme très très important chez Lacan. Alors bien sûr, on pense à l'excommunication, c'est ce dont vous parlez. Mais disons que il me semble que ce que vous indiquez, Bernard, reprend plus loin que cela, plus loin que cette sortie de l'IPA par exclusion. Au moment du séminaire, il parle de l'exclusion, de son séminaire 4, il a cette formule. Le terme d'exclu a dans notre topologie toute son importance. C'est-à-dire que la dimension de l'exclusion n'est pas seulement, me semble, c'est ce que j'ai cru entendre dans ce que vous disiez, hein, c'est la question que je vous pose. Pas seulement la question d'être exclu de l'Association internationale de psychanalyse, c'est plus largement une dimension topologique essentielle. Et alors, il y a plusieurs incidences, entre autres celle dont vous avez parlé à propos du discours de l'analyste, mais on pourra y revenir dans la discussion. Mais tout à fait fondamentalement, la vérité du sujet en exclusion interne à son objet. Et c'est ça qui fait marcher, au fond, le fait qu'il y ait ou non, ça je vais en parler en un mot à propos de ce qu'a dit Bernard Dominet, cette histoire de fuite ou de bouchon de la fuite. C'est l'exclusion interne à son objet qui fait marcher le vastringue. Donc je crois que, autant vous avez parfaitement raison de centrer sur ce concept, autant il faut lui donner toute son ampleur topologique, parce que c'est central dans la construction. Constitution même de l'analyse. Alors, ça, c'est ma question. Est-ce que ce serait votre orientation? Est-ce que c'est ce que vous avez voulu, au fond, dire? C'est allant plus loin que l'excommunication. Alors, à Bernard Dominet, je poserai la question suivante. Je ne sais pas comment je vais arriver à la formuler. Au fond, dans les trois exposés, il y a une sorte de mouvement de bascule entre discours de l'analyste et le fonctionnement, le réel de l'institution. C'est ce qui se travaille dans vos trois exposés. Alors, au fond, quand Bernard Lapinali nous parle du statut de l'AE à partir de la citation extrêmement intéressante de Lacan que vous avez exhumée, au fond, on pourrait, en une phrase, bien sûr, trop sommaire, situer la position du petit A dans le discours de l'analyste comme faire de son abjection agent. Faire de son abjection un agent. Un effet d'agent. Alors, il y a dans la citation que vous avez présentée une phrase sur laquelle vous n'avez pas voulu insister. Un membre de phrase qui était que les AE ont pour fonction la critique permanente de l'autorisation des meilleurs. Je trouve que c'est ça mérite d'être souligné. Est-ce que c'est ce que font les AE? Question. Est-ce que c'est ce qu'ils font à partir du fait qu'ils mettent leur point d'impossible et d'abjection en fonction d'agents à propos de l'autorisation des meilleurs? Question. Mais c'était dans votre citation. Et je pense que ça méritait qu'on en parle peut-être ce soir ou à un autre moment, parce que c'est relativement costaud, ça, cette histoire de critique permanente de l'autorisation des meilleurs par les AE. Alors, Au fond, à partir de ce qu'a dit Bernard Dominé, est-ce que faire travailler le petit A en position d'agent dans l'institution, comme dans le discours de l'analyste, ce serait cela, viser l'obscénité dans Villegroupe? Est-ce que c'est cela qui nous permettrait de parler de ce dont Elisabeth Tamer nous parle, au fond, avec sa référence à télévision? Et là, évidemment, je n'ai pas grand-chose à redire à ce que vous avez dit, qui était si nuancé, si facile. Simplement, autour de la question dont vous avez débattu avec Claire il y a un instant, et puis on a tous en tête, est-ce que faire une analyse, ça rend un peu moins raciste ou pas du tout? La citation que vous avez produite à la fin de la cinquième chapitre de télévision, je la relis en un mot. Dans l'égarement de notre jouissance, il n'y a que l'autre qui la situe. Mais c'est en tant que nous en sommes séparés de cet autre. D'où des fantasmes inédits quand on ne s'en mêlait pas. C'est un fantasme colonial, par exemple, etc. Et il y a ensuite, alors, un autre paragraphe de Lacan qui nous donne peut-être une toute petite voie vers l'issue de cette question, racisme ou pas, entre une analyse. Lacan écrit « Laissez cet autre, avec un grand A, à son mode de jouissance. C'est ce qui ne se pourrait qu'à ne pas lui imposer le nôtre, à ne pas le tenir pour un sous-développé. » Et ça, c'est une position extrêmement forte. C'est-à-dire qu'au fond, la question devient, est-ce que, au terme ou à travers une analyse, la jouissance de l'autre nous paraît un peu moins insupportable? Et c'est cela, au fond, qui nous permettrait de poser la question du racisme de façon relativement massive, comme Lacan le fait à propos de ces sous-développés, là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le travail de l'analyse, et quoi ? Question que je vous pose, une question que nous posons, et on pose à tous, qui ferait que la jouissance de l'autre nous serait un peu moins insupportable ou pas du tout. Voilà.
La réponse brève. Oui, j'espérais que ça soit entendu. Cette question de l'être exclu, je le redis, elle me semble centrale pour la psychanalyse, avec Lacan, et elle va bien au-delà de l'être exclu d'IPA, puisque Lacan essaye de l'insérer, cet acte-là, dans ce qui fait la fin d'une analyse, dont vous allez chercher le cœur, etc. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de central, et que Lacan essaye d'étendre ce qui lui permet de nouer, hein, je dis, cette question du groupe impossible d'analyste avec la question de la fin de l'analyse. C'est-à-dire l'analyse personnelle, par le biais de sa fin. Je crois que c'est vraiment un truc central. Et l'être exclu, il faut quand même se laisser porter un peu par l'équivoque. C'est être exclu, bien sûr, un être exclu volontaire, hein, choisi, dit Lacan, mais c'est aussi l'air, la part d'être exclu, c'est individu dont tu parlais. Hein, voilà, c'est quelque chose qui fait que nous sommes là ce soir.
Je suis perdu un peu dans les questions. Bernard, je trouve, j'ai toujours beaucoup du mal à penser que dans n'importe quelle institution, on puisse mettre l'objet A à la place de l'agent, sauf dans la cure. Je ne vois pas comment dans une institution analytique, on puisse mettre ça en acte, en œuvre. C'est vrai que c'est une vraie question. Qu'est-ce qui nous réunit? Dans quel discours sommes-nous quand nous travaillons ici? J'ai du mal à... Je ne pense pas qu'on puisse transposer à ces liens sociaux et spécifiques de l'analyse, en lien à deux, vers... une école ou un groupe quelconque de psychanalyse. Je ne vois. Je pense que c'est autre chose qui nous cause ici et qui nous fait travailler. Est-ce que c'est le discours hystérique, c'est-à-dire cette place d'analysant qui nous fait bosser, c'est ça qui nous réunit, hein, à interroger les textes de Lacan, par exemple, Freud. Mais je ne vois pas comment on pourrait, dans un groupe quelconque, au-delà de la dimension du cadre de la cure, fonctionner...
La passe, le dispositif de la passe.
Dans quel sens, Marc ?
Au sens que ça fait trou dans l'école, dans le groupe.
Ah oui, et ça rejoint, c'est intéressant que tu remarques ça, parce que ça rejoint la passe non plus. Hein. Je pense que ce n'est pas non plus le discours analytique dans la passe. Mais ça me permet, parce que c'est intéressant, la remarque qu'a fait Bernard Tauboul sur ce passage du AE, une critique permanente de l'autorisation des meilleurs. Ça me rappelle, ça fait écho pour moi avec une autre citation, je ne sais pas si c'est dans la proposition au discours à l'AFP, où Lacan parle de la passe, la passe, pas de l'AE, dans ces cas, il dit que les risques dans une institution, même les meilleurs, c'est l'étarissement des travaux de ses membres, même du travail de ses membres, même des meilleurs. Hein. Et tout cela pour justifier la mise en place du dispositif de la passe, c'est-à-dire c'est quelque chose pour empêcher que même les meilleurs tarissent leur travail, en quelque sorte. Hein, de continuer.
Quel sens ça de parler des meilleurs?
C'est Lacan.
C'est ceux qui se sont autorisés.
Oui, je sais.
Ceux qui se sont
mais
autorisés.
Il n'a pas publié sa première version. Il l'a réécrite et il n'a pas repris ses expressions à l'écrit. Je le note parce que pour moi, c'est très
important. C'est pas dans les discours.
Il y a quand même un point d'ironie fort, là. L'autorisation des meilleurs, il y a quand même une, un grain de sel.
J'espère qu'il y a de l'ironie, mais je ne vois pas Lacan soutenir la notion des meilleurs parmi les analystes. Hein.
Mais l'étarissement du travail des meilleurs, c'est dans un texte...
Là, c'est l'étarissement du travail.
Du travail, ah oui,
La critique permanente.
Et là, c'est l'autorisation.
Ouais.
Moi, je pense aussi, je réagis un petit peu comme Elisabeth, je ne vois pas bien comment le dispositif du discours analytique pourrait structurer un groupe. Je ne vois pas bien comment du petit a... Bon, il peut y avoir des choses qui viennent un peu à la place. C'est sûr que donner sa place à la passe et à des choses qui décomplètent le savoir et la doxa, c'est certainement quelque chose qui nous met au travail. Mais moi, je pense un petit peu comme Elisabeth, qu'une communauté est vivante quand elle est animée de gens qui sont au travail, c'est-à-dire qui sont à la place de Esbarré. Et que c'est ce côté-là qui m'intéresse. Maintenant, par rapport à la question que tu soulèves et que tu amènes la fin de la phrase, c'est très très intéressant. Moi, ça me fait penser à un autre passage où Lacan dit s'il y a un deuil à faire dans l'analyse, c'est le deuil qui aurait un objet qui vaudrait plus qu'un autre. Je crois que c'est la même chose, cette histoire de jouissance. Qu'est-ce qui est insupportable? C'est la jouissance de l'autre, parce que je pense que la mienne est bonne. La mienne est bonne, donc celle de l'autre est insupportable. Hein, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, mais si on tolérait aux autres tout ce qu'on ne s'autorise qu'à soi-même, la vie serait insupportable. Hein, je crois que quand même on peut espérer que à la fin d'une analyse, un sujet, l'analysant, accepte de dévaloriser sa jouissance.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
De penser que sa jouissance, c'est quand même pas, elle ne vaut pas mieux que celle de l'autre. Et du coup, ça rend un peu plus tolérant.
Alors qu'est-ce que c'est que cela, sinon la réduction de sa jouissance au plus de jouir?
Tu vas vite. Oui, mais bah,
ouais, peut-être. Elle est déjà réduite au plus de jouir.
Oui, mais il faut encore le mettre au travail pour le savoir.
Enfin, moi, si tu veux, cette petite réflexion me fait penser à ça. Le deuil d'un objet qui vaudrait plus qu'un autre. C'est quand même quelque chose qui... c'est ça, le racisme de fond. C'est qu'il y a quand même une jouissance qui vaut mieux qu'un autre. Quoi. Et c'est là-dessus qu'on ne peut céder qu'au un par un si on a dévalorisé déjà sa propre jouissance. Ou en tout cas, si on a entrevu que les principes moraux qu'on avait n'étaient là que pour justifier notre jouissance.
Ça pose un problème logique. Quand tu définis le totalitarisme en disant, dans le fond, c'est ce qui ne rentre pas dans l'ensemble détruit le mythe de l'ensemble qui ne serait pas troué. Hein? Oui, certes. Mais en même temps, en toute logique, on pourrait dire aussi que ce qui ne rentre pas dans l'ensemble le constitue. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'ensemble. Hein? C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'objet extérieur, il n'y aurait pas d'ensemble. Donc on peut dire aussi que, pour qu'il y ait une race supérieure, il faut qu'il y ait des sous-hommes. Il faut définir des sous-hommes. Pour qu'il y ait une bonne jouissance, il faut aussi définir des jouissances mauvaises, etc. Donc, effectivement, il y a tout un problème logique. Et en tout cas, on est d'accord sur la conclusion, la caudale, c'est que, en ce sens, l'analyse induit un antiracisme théorique, je dirais. Effectivement.
Oui, mais j'entends bien ce que tu dis. Mais ce que j'ai essayé de montrer, et justement à partir d'un travail que j'ai lu sur cette fameuse Volksgemeinschaft, c'est que l'idée. C'est pas qu'il y ait S1, c'est le Volksgemeinschaft, et le reste qui serait S2. C'est pas du S2, c'est du Gegenrasse, c'est de l'antirasse. Et c'est pas pareil.
C'est pas la même logique. Par la création d'un.
Ah oui, mais c'est pas pareil. Je veux dire que le fait de dire on fait un groupe en excluant quelque chose qui nous construit. Et qui nous unit, le quelque chose, à ce moment-là, n'est pas de l'ordre de l'objet, c'est de l'ordre de l'autre, c'est de l'ordre d'un autre signifiant, disent que là, c'est vraiment du truc qui doit disparaître, qu'on doit éliminer, qu'on doit exclure, pour le coup. C'est pas la même logique, c'est pour ça que je voulais, je tenais à séparer ce qu'on appelle le racisme du discours, qui est un racisme de structure, de ce qu'on voit là, du vrai racisme, de l'antisémitisme et des trucs qui fleurissent en ce moment, et qui n'ont rien à voir avec le discours du maître, qui ont à voir avec la faillite du discours du maître. Les gilets jaunes, en ce moment, c'est ça. C'est le discours du maître, il ne s'appuie pas du tout dessus. Et du coup.
Quand on parle du racisme des discours, il ne parle pas du racisme des individus.
Non.
Et donc, c'est pas la même problématique.
Non.
Donc. Je trouve que c'est pas la même problématique et c'est important quand même de séparer. Et c'est important de séparer, ne serait-ce que parce que ça nous permet de nous poser la question qu'on se pose ici de qu'est-ce que l'analyse a comme effet possible sur éventuellement le racisme d'un individu, alors que le discours analytique, on ne le suppose pas spécifiquement raciste, lui, en tant qu'analyse. Alors, j'ai un petit. J'ai pas tellement de problème avec l'histoire du sous-développé. Il me semble que, en effet, Bernard Bernard Lominet l'a dit, au fond, ne pas le prendre pour un sous-développé, ça veut dire ne pas considérer que sa jouissance est inférieure à la nôtre. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est plus ça que plus ou moins insupportable. Parce qu'elle peut nous être insupportable quand même, auquel cas on n'ira pas s'y frotter. Mais on ne la considérera pas comme moins valable qu'une autre. Bon. C'est pas pareil, plus ou moins insupportable, mais le prendre pour un sous-développé, il me semble que c'est... Dans un cas, il y a une évaluation, et dans l'autre, il y a une réaction. Les jouissances ne sont pas toujours en sympathie les unes avec les autres, même entre individus, même au sein d'un même discours. Alors, ce que j'ai le plus retenu dans l'exposé de Bernard Lapinami, c'est la commune mesure. J'ai un problème avec l'exclusion, je vais y venir après. J'aime bien cette notion que Lacan avance à ce moment-là. Il faut une commune mesure. La commune mesure, j'ai l'impression, quand il dit ça, c'est ce qui se distingue de l'obscénité du groupe. La commune mesure, c'est dans le groupe. Mais ça n'est pas l'obscénité du groupe. Et la commune mesure, alors après on peut se demander quelle est-elle. Bernard Lapinami, vous avez fait l'hypothèse que c'était l'exclusion.
C'est d'être exclu.
Oui, j'y viens après. Oui. Moi, je dirais plus simplement, je pense que nous avons une commune mesure, c'est l'analyse. C'est-à-dire qu'on est là avec. Soit analysant, soit analyste, mais on est pris dans ce discours. Et on est réunis en tant qu'on est tous pris dans ce discours, à des places différentes, et ça, c'est une commune mesure. Le discours analytique fait une commune mesure, me semble-t-il, qui fait que, bien qu'il y ait l'obscénité du groupe, ça apporte un tempérament. L'obscénité du groupe, je dirais ça comme ça. Alors, l'être exclu, je suis embarrassée avec cette notion d'exclusion parce que, ou bien on prend l'exclusion au sens extrêmement pragmatique du terme. Ils ont choisi de quitter l'IPA avec tout ce que ça impliquait éventuellement de perte. C'est un acte qui choisit une certaine exclusion. On est dans le concret. Hein. On est sorti, nous, de l'ALP. Voilà, là, ça, c'est concret. Ou bien, on prend l'exclusion au sens, comme le disait Bernard de Boult, très justement, au sens de la topologie de l'expérience. Et on est dans une structure où il y a un élément qui est exclu à l'intérieur. Alors là, on est à deux extrêmes de l'analyse. Parce que remarquez bien que si on prend au sérieux l'idée que l'élément, il y a un élément d'exclusion à l'intérieur, ben, le totalitarisme, il est impossible. Alors, vous allez me dire, oui, c'est vrai, tous les totalitarismes finissent par plonger. Ils ne durent pas. Ils ne durent pas indéfiniment, ce qui prouve qu'il y a bien quelque chose qui les rend impossibles à l'intérieur. Enfin, ils ont quand même le temps de faire de gros dégâts avant que l'élément d'exclusion interne ne finisse par l'emporter. Et donc, entre ces deux extrêmes, je trouve difficile l'usage de ce choix d'exclusion, et spécialement pour la fin de l'analyse. C'est le mot « choix » qui m'embête. Parce que... est-ce que ce ne serait pas mieux de dire qu'il y a dans l'analyse un dévoilement de l'exclusion interne ou un savoir acquis
de l'élément, hein, une mise au travail sur cet élément.
Oui, une mise au travail qui fait qu'il finit par se dévoiler à celui qui en est travaillé. Oui. Alors, à la limite, un consentement, mais un choix. Non, non. D'autant que, comme vous remarquez, la fin de l'analyse, c'est rare que les gens se décrochent de l'analyse. D'une manière ou d'une autre, ils y restent accrochés. Surtout dans les communautés analytiques, en tout cas. Pour nous, c'est quand même pas tant. J'avais une autre dernière remarque. Bernard, tu as dit beaucoup de choses, mais bon, j'interviens sur un point limité. Il semble à un moment que tu identifies dans la phrase « les races constituent des places symboliques des discours », il semble qu'à un moment tu identifies place symbolique avec les symboles, puisque tu dis que dans le discours de l'analyse, les symboles ils sont pas dessus. Et justement, moi je crois que place symbolique, ça veut dire autre chose, ça désigne pas les symboles. C'est la grosse difficulté dans ces écritures des discours chez Lacan, c'est qu'on n'a pas de difficulté, me semble-t-il, avec le temps et le travail, à comprendre S1, S2, A, S barré, mais les places, c'est tout autre chose. Et Lacan, c'est tellement autre chose que Lacan leur a cherché des noms.
Mmh. Il en a donné plusieurs.
Et il tâtonne là-dessus. Il dit l'agent, la place de l'agent, la place du semblant, la place de l'autre.
Oui, oui.
C'est l'autre de l'agent, l'autre du semblant. La production de la vérité. Il n'a pas trop varié là-dessus. Mais il nomme les places. Et c'est une difficulté dans les discours, comment les places se génèrent. Je te demande pas de répondre là-dessus, non, c'était pas ton objet, mais c'est vraiment un problème. Et je crois que place symbolique, c'est pas les symboles du tout.
Non, mais j'ai pris ça un petit peu vite. C'était surtout, tu frappais quand même la différence entre le discours du maître et le discours de l'analyste. C'est que dans le discours du maître, ce sont des paires signifiantes qui sont visibles, alors que les paires signifiantes sont complètement occultées et dans le dessous, dans le discours analytique. C'est quand même très très frappant.
C'est les effets qui sont dessous.
Oui, c'est les effets. Mais du coup, ça fait que ce discours analytique prête moins le flanc à ce qu'on fasse des paires signifiantes comme analysant, analysé. Par exemple, c'est pas analysant, analysé, c'est analysant, analyste. Ce qui justement introduit une distance par rapport à scientier et compagnie. C'est ça que je voulais remarquer.
Oui, d'accord.
Mais c'est sûr que place symbolique, tu as raison. Alors, elles sont, d'ailleurs, c'est un peu compliqué dans ce discours, c'est-à-dire que ces places induisent une lecture des symboles que l'on y met. Parce que si on met petit a dans le discours du maître, c'est pas la même chose que le petit a dans le discours de l'hystérique ou le petit a dans le discours de l'analyste, c'est pas la même chose. Maintenant, par rapport à la commune mesure, je me demande si c'est pas ça, finalement, que Lacan vise quand il dit cette chose très spéciale, nous sommes frères de notre patient, en tant que comme lui, nous sommes fils de discours. C'est ça la commune mesure, c'est fils de discours.
Mais oui, au pied du même mur, il dit.
Oui. C'est assez joli, ça.
Fils des discours et pas exclu des discours.
Non.
Non, mais c'est comme ça. Oui, je me disais que nous avons bien choisi de quitter le CF et l'AMP. J'étais un petit peu hésitante. Je me demandais est-ce que je dirais que j'ai choisi d'être exclue. Et il me semble qu'on peut, à la limite, choisir de se faire exclure d'une institution. Mais on n'est pas pour autant exclu du discours. L'idée d'une exclusion du discours nous fait problème. Ça me fait penser au hors-discours. On n'est jamais hors-discours, sauf dans le cas qu'on connaît. Donc, on est toujours sujet d'un discours ou d'un autre discours. Hein ?
Il s'agissait de l'hyper.
Bon, oui, mais ce n'est pas un discours, c'est une institution pour moi.
Qui se soutenait d'un discours.
Oui,
comme oui, toutes les institutions.
Mais, oui, les institutions soutiennent un discours, mais les sujets sont toujours sujets d'un discours d'un autre. Oui, voilà. Donc on est d'accord là-dessus. Alors, une question que je voulais vous poser, on a bien souligné, Elisabeth en particulier, qu'il s'agissait du racisme des discours, c'est le thème qui a été choisi. Donc à propos de cette expression, j'aurais voulu que vous m'éclairiez sur la distinction que vous faites, comment vous définissez le racisme des discours, comment vous le distinguez du racisme des... Alors là, j'hésite. Est-ce qu'il faut dire racisme des sujets ou racisme des personnes? Je ne sais pas. Voilà la question que je vous pose.
Je peux faire une réponse à Colette Sonia. Je voudrais juste vous dire sur vos remarques que quand il fait sa première version, qu'il parle Lacan, j'imagine que il ne dit pas au fond des choses un petit peu au hasard comme ça, je ne sais pas comment dire, quand même il dit quelque chose de très étrange. Il dit qu'il faut insérer l'école dans le cadre, c'est-à-dire dans le cadre personnel de l'AE. C'est quand même une façon étrange de dire les choses, parce que c'est une façon de dire les choses à l'envers de ce qu'on attend. On a plutôt l'impression qu'on essaye d'insérer dans l'école l'AE, hein. Lui, il prend les choses à l'envers. Et ça m'a beaucoup frappé. Alors, de deux choses l'une, ou bien il nous dit quelque chose sur lequel on peut s'arrêter, ou bien il dit quelque chose qui ne vaut pas, qui ne tient pas, il a parlé trop vite, je ne sais pas très bien, je n'ai pas la réponse. Mais c'est ça qui m'a quand même tout à fait alerté, que pour l'instant, je ne laisserai pas tomber comme ça. Voilà.
Est-ce que ça pourrait pas vouloir dire tout simplement que il faut que insérer le souci de l'école dans les 10 AE?
Ça pourrait être ça s'il n'y avait pas aussitôt ce qu'il dit qu'il faut insérer. C'est cet acte du choix d'être exclu. Il dit que c'est ça qu'il faut insérer de l'école, c'est-à-dire de ce qui a constitué l'école, dans l'AE. Alors ça reste assez énigmatique, c'est vrai, mais il le dit comme ça. Si on lit le passage, c'est textuellement comme ça. Ça m'a saisi quand même, parce que ça, plus c'est à l'envers de ce qu'on a l'habitude d'entendre.
Pour lui, l'AE, de quoi il est exclu?
Non, non.
Il est exclu des hiérarchies de titres.
Je vais répondre à la question de Sol, parce que c'est vrai qu'elle est centrale, cette question. Je pense qu'on a tous les trois la même lecture, que le racisme des discours, c'est un racisme de structure. C'est la structure du signifiant qui met ça en place, et le discours du maître qui introduit des hiérarchies d'ailleurs qui sont des hiérarchies de jouissance. Le maître, c'est celui qui, pour qui la jouissance c'est celle du pur prestige, l'esclave a une autre jouissance. Donc il y a le racisme des discours. Maintenant, le racisme, disons, de chacun, ça a à voir, Lacan le dit comme ça, avec les racines. Donc les racines, c'est en fait ce dont on hérite, hein. C'est ce qu'on appelle aussi des fois les valeurs. Hein. C'est comme ça.
Hein. En fait, dans certains milieux.
On en hérite des valeurs. Il faut un peu se battre pour pas être dans les mêmes valeurs que celles de nos parents et compagnie. C'est pas simple. Donc, je pense que le racisme de chacun, ça a à voir justement avec une hiérarchie des jouissances qui est enracinée dans toutes nos histoires. Et je dirais, moi, que la psychanalyse, elle est intéressante pas simplement du fait du discours analytique, elle est intéressante parce qu'elle permet de changer le discours. D'accord, il y a de l'analyse à chaque fois qu'il y a des changements de discours. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on introduit un changement de perspective, ah, on voit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ce qu'on ne voyait pas, c'est-à-dire la jouissance. C'est-à-dire que chaque discours dévoile la jouissance d'un autre discours. Et il me semble que faire une analyse, c'est se donner la chance de bouger un peu. Hein, c'est-à-dire de sortir de ces hiérarchies de jouissance dans lesquelles on est complètement enraciné.
Alors, sur ce point-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a le racisme de chaque discours à l'égard des autres, mais chaque discours induit un racisme chez tous ces apparolés, induit chez ceux qui sont dans ce discours le racisme propre à ce discours. Et en ce sens, ça repose la question en effet du discours analytique qui est le seul à défaire ça, à pouvoir le défaire éventuellement.
Alors, donc, il y a deux...
La première série, peut-être.
Alors, c'est pour Bernard Minali, c'est la formule de l'école comme anti-raciste, c'est ça? Je ne suis pas sûr, mais enfin, parce qu'il y a le racisme de structure des discours, et puis il y a le racisme des corps, c'est-à-dire des communautés, les communautés de travail. Enfin, là, je pourrais parler, disons, des expériences personnelles, mais je pense plus à ce que dans notre communauté, le fait que cette commune mesure, qui est, c'est vrai, peut-être un peu plus idéal, mais ça n'empêche pas les exclusions, les séparations, c'est-à-dire il y a toujours quand même, au-delà du dispositif analytique, la jouissance de l'autre qui fait un peu obstacle à quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est insupportable, et donc il faut s'en séparer, soit partir, soit s'exclure, soit créer autre chose. Donc, je pense que... pas négliger cet aspect-là, et pour Bernard Nolimay, j'ai une question, parce que ça m'a beaucoup intéressé, ta façon de dire le totalitarisme et le discours universitaire. Je trouve que c'est très, très éclairant, mais très provocateur aussi. Parce que je te pose la question, les États-Unis se disent maîtres du monde, donc on peut penser qu'ils sont dans le discours du maître. Mais c'est pas sûr que à la base... c'est ce qui règle ce fonctionnement. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être développer un peu autour de leur rapport avec le discours universitaire, et est-ce que c'est une forme de totalitarisme, ou de racisme, surtout aujourd'hui ? C'est une question que je pose.
De Lacan qui répond assez bien à la question, où il dit que le S2 dans l'écriture du discours universitaire, c'est la bureaucratie soviétique.
C'est ça, il le dit, oui.
Il le dit textuellement. Donc, c'est assez convaincant finalement. Et il ajoute à ça, c'est le capitalisme mis en ordre.
Oui.
C'est explique cela alors.
Et d'ailleurs, il dit que ça produit du capitalisme. D'ailleurs, il le dit comme ça. Hein. Il le dit sur les marches du Panthéon, je ne sais pas quoi. Maintenant, moi, je ne peux pas répondre à ta question parce que je ne suis pas assez spécialiste de la politique des États-Unis. Je trouve que c'est très difficile à décrypter, particulièrement en ce moment. Mais a priori. Ça serait à étudier, parce que c'est sûr que la guerre froide montrait bien que les deux systèmes se regardaient en symétrie. Ça serait serait à étudier, effectivement.
On aurait quand même du mal pour les États-Unis à faire rentrer ce qui s'y passe dans une structure où le S2, il y a un savoir, où il y a une voix en position d'autorité.
D'autorité, oui, c'est ça.
Et parce qu'il y a un moment, Bernard, tu dis, dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l'université est au poste de commandement. Oui. Je ne crois pas. Hein,
c'est du Lacan.
Non, non, l'université, c'est pas. C'est une métaphore. Il me semble qu'on pourrait ajouter à la dimension bureaucratie l'idée que le S2 fonctionne comme idéologie.
Oui, l'idéologie.
Il fonctionne comme idéologie et de ce fait, les astudés sont un peu ce que nous disait Elisabeth Tamer, que je ne vais pas répéter. Mais disons qu'ils se font avoir.
Il les compare d'ailleurs à des sous-prolétaires. C'est fort, ça aussi.
Des gens qui ne marchent pas.
Mais je pense que oui, ça pourrait se décliner du côté de l'idéologie. Mais une idéologie qui soit aux commandes. Hein.
Oui. Il faut que ce soit l'idéologie. Il disait un truc assez extraordinaire dans l'archipel du Goulag. Il disait dans les temps modernes, le scélérat moderne, c'est celui qui tue au nom de l'idéologie. C'est une formule assez forte.
Oui, la discussion actuelle, on pourrait ajouter l'expertise, les experts, le pouvoir des experts. Je parle des experts.
Le pouvoir
des deux dans le discours contemporain. Donc je vais revenir à des choses très prosaïques. Ça fait très longtemps que ces PD me tracassent.
Sans blague.
Et je suis quand même très frustré du fait qu'il n'y ait pas d'explication plus éclairante sur cette référence qui, quand même, je ne pense pas forcer les choses, évoque l'homosexualité. Alors, il y a évidemment la référence à la théophilie, la pédagogie des Grecs et tout, mais ça ne me paraît pas suffisant. Qu'est-ce que les PD viennent foutre là-dedans? Pourquoi Lacan? Bon, aujourd'hui, ce serait impensable.
Impensable.
Mais, à l'époque, il fallait quand même déjà avoir un certain culot pour balancer ça. Qu'est-ce que vise Lacan avec ce texte? J'aimerais bien, si vous avez l'un ou l'autre des idées là-dessus, ça m'intéresse. Attends une seconde, je vais finir.
Au revoir.
Après, vous précipitera pour répondre. La deuxième remarque, c'est à propos de l'antiracisme du discours analytique. C'est épatant, mais il me semble qu'il y a quand même un racisme qui a été signalé ou pointé par Lacan, avancé par Lacan, refuser le discours analytique aux canailles. Pourquoi les canailles subissent ce triste sort que subissent les pervers chez Platon, même si Lacan, dans un deuxième temps, dit que finalement, c'est pas si grave, ça dit en bête. Mais dans un premier temps, il est quand même extrêmement rejetant, en disant qu'il y a un danger, et il évoque Goebbels, etc. Voilà mes deux questions, et Colette avait déjà une réponse à ma première, je crois.
Par rapport à ces pères signifiantes, scientiers, pédants, pédés,
non, mais que l'hystérique soit science, ça, on peut bien le comprendre. Parce que c'est le maître scié aussi.
Mais je ne suis pas. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à l'idée d'en faire à une catégorie de chaque discours. Moi, je crois que ça montre. Enfin, il me semble que d'abord, c'est un jeu de mots. Il vise à faire rire. Si, je pense qu'il vise. Scientier et puis pédant, paf, ça va tomber, évidemment, mais je crois que ça montre la bêtise des pères signifiantes. Je crois que toutes ces pères signifiantes disent qu'il s'agit de classifier suivant le discours du maître. C'est S1, S2. C'est ma lecture. Je ne crois pas qu'il faille tellement aller plus loin que le montre. Il se moque. je ne pense pas du tout qu'il se moque des homosexuels, il se moque de la bêtise du signifiant. Et que c'est vrai que les pédants, eh bien, si on s'amuse à analyser, marchand, marché, je ne sais pas quoi, on y vient. Mais, oui,
bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est 23h.